Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous du vendredi pour échanger sur un sujet qui vous concerne avec des réponses, des pistes pour vous informer, vous rassurer et pourquoi pas en finir avec certaines idées reçues. Notre thème du jour, c'est la préparation à l'accouchement. Se préparer en posant des questions, en recherchant des informations, mais aussi en assistant à ce qui ressemble à des cours, mais pas tout à fait. Ces séances qui, au fil des mois et des semaines, vont permettre aux futurs parents d'appréhender les transformations du corps de la femme enceinte, s'approprier ces changements, se projeter et comprendre les différentes étapes qui vont ponctuer la grossesse jusqu'à l'accouchement. Une préparation qui varie forcément en fonction des régions, des systèmes de santé et des cultures du monde. Cet espace d'échange avec les soignants, médecins ou sages-femmes dépend aussi de l'état des connaissances médicales comme de certaines tendances, certaines croyances. Mais au-delà de ces différences, les autorités de santé sont d'accord pour juger cette préparation nécessaire au même titre que le suivi médical, une forme d'apprentissage, un temps d'initiation qui permet d'impliquer les parents dans le projet de naissance et, le cas échéant, repérer certaines difficultés ou certains risques. Relaxation, accouchement, suite de couches, soins en nourrisson, allaitement, préparation sous le signe de la sérénité et de la sécurité. Comment bien se préparer à l'arrivée d'un bébé? Comment se déroulent ces séances? Dans quelle mesure permettent-elles de sécuriser la naissance? Et nous vous retrouvons dans les studios de RFI en full des aimants d'un camp. Docteur Abdoulaye Diop, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes gynécologue obstétricien à la clinique Bellevue à Dakar au Sénégal. On remercie bien sûr toute l'équipe de RFI Dakar pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
On va commencer d'emblée, et oui, sans détour, par une question d'auditrice. Nafissa, elle est enceinte, elle est presque à la fin, dit-elle, à la fin de sa grossesse, et elle avoue avoir peur de l'accouchement. Est-ce que vous avez des conseils, docteur Abdoulaye Diop? On rentre tout de suite dans le vif du sujet, des conseils pour un petit peu atténuer ses peurs et une arrivée plus sereine le jour J.
Oui, c'est tout à fait légitime que Nafissa ait peur pour son accouchement. L'accouchement est un moment crucial de la grossesse et il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qu'elle va entendre par rapport à l'accouchement. Surtout ici, culturellement parlant, on va faire peur et il faudrait la rassurer. L'accouchement est un moment naturel, c'est un processus naturel. Les femmes sont physiologiquement faites pour pouvoir accoucher. Oui, il y aura de la douleur, c'est vrai. On peut expliquer la douleur. Il y a les moyens de soulager la douleur. Il y a des moyens médicaux, il y a des moyens non médicaux, etc. Elle peut accoucher sereinement et ça va bien se passer.
Primipare, premier bébé.
Premier bébé, exactement.
Alors, il y a les recommandations, il y a les faits, il y a des consultations prénatales, mais il y a aussi des séances, ce qu'on appelle la préparation à l'accouchement. Dans un pays comme la France, un certain nombre de ces séances sont remboursées par la Sécurité sociale parce qu'on a la chance d'avoir un bon accès à un système de soins. Est-ce qu'il y a un petit peu l'équivalent, pas forcément pour toutes les femmes, mais dans certains contextes, dans un pays comme le Sénégal?
Les cours de préparation à l'accouchement au Sénégal, il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes un peu précurseurs dans l'établissement de ces cours de préparation à l'accouchement où nous les dispensons depuis peut-être quelques années à la clinique NES, une dizaine d'années. Nous avons instauré à l'époque les cours de préparation à l'accouchement pour aider un peu et accompagner nos patientes dans la préparation de l'accouchement. Il y a eu d'autres structures privées de la place qui offrent aussi ces cours aux patientes. Il y a eu des associations aussi de kinésithérapeutes ou d'ostéopathes qui font aussi ces cours de préparation à l'accouchement. Mais ça reste que des initiatives privées et vraiment très isolées.
Est-ce qu'on a des données, des études qui prouvent que la préparation et même les informations, une maman qui arrive en connaissance de cause, une future maman, eh bien c'est un atout pour sa sécurité?
Oui, dans les pays développés où ces cours de préparation à l'accouchement sont quasi systématiques et inclus dans le parcours de la patiente, on se rend compte que depuis l'installation de ces cours, il y a une belle amélioration des conditions d'accouchement de la patiente et une diminution même de certaines complications où il y a un certain conflit qui peut avoir entre le personnel médical et la patiente au moment de son accouchement.
Docteur Diop, vous plaidez pour que le père s'implique dans cette préparation. Est-ce que ça correspond aux faits, à la culture, au mode de vie chez vous au Sénégal?
Oui et non. Dans notre culture, selon certaines ethnies, les parents, exemple chez nos parents, Djola, je pense, les parents, le père est complètement exclu du processus de l'accouchement de sa femme. Alors que dans d'autres cultures, c'est peut-être autorisé, mais c'est peut-être la configuration de nos espaces de santé, la configuration de nos hôpitaux, certainement les hôpitaux publics, qui font que la participation du mari à l'accouchement est un peu difficile. Si la femme accouche dans une salle d'accouchement commune, il est un peu difficile pour le mari de pouvoir accoucher à cet accouchement. Par contre, lors du cours de préparation à l'accouchement, les maris sont cordialement invités.
Alors, la préparation, c'est une affaire de soignants. Les séances sont dispensées par quel praticien quand il y en a ?
Il existe plusieurs praticiens qui peuvent dispenser ces cours de préparation à l'accouchement. Le gynécologue, déjà, il peut faire ses cours de préparation à l'accouchement. Je pense que c'est l'un des spécialistes les plus outillés pour pouvoir dispenser ses cours. Il y a la sage-femme, en bonne place, qui aussi a tout le bagage intellectuel nécessaire pour pouvoir dispenser ses cours de préparation à l'accouchement. Il existe aussi d'autres femmes telles que des kinésithérapeutes ou bien des ostéopathes. Parfois même, ces cours de préparation à l'accouchement sont dispensés par des femmes qui simplement partagent un peu leur expérience d'accouchement antérieur. Mais dans ce cas, ce n'est pas vraiment des cours de préparation à l'accouchement, c'est plus un peu un partage d'expérience, ce qui a aussi un bénéfice.
Alors justement, dans la culture traditionnelle, une initiation, pas forcément par des personnels qualifiés, des substituts, des matrones, peut-être des causeries explicatives. Comment se transmet entre les générations cette préparation au grand jour pour les femmes ?
De manière culturelle, en général, les cours de préparation à l'accouchement ne font pas partie de notre culture chez nous. C'est votre maman, c'est votre tante, c'est la sœur de votre père ou une amie qui va vous expliquer un peu comment va se passer l'accouchement. Mais elles prend exemple sur son expérience à elle. Et on voit malheureusement qu'il y a beaucoup de rumeurs infondées, aussi bien pendant la grossesse que pendant l'accouchement. Et donc, il y a beaucoup d'informations un peu erronées que la patiente va recevoir et qui vont contribuer un peu à créer une certaine angoisse chez elle. Alors que si elle se rapprochait peut-être d'un professionnel de la santé, il y aurait beaucoup moins d'angoisse. Une partie de tout ce qu'on lui racontera est vrai, c'est vrai, et il faudrait le reconnaître. Mais il y a une bonne partie qui est largement exagérée et souvent même c'est faux.
En tout cas, on le dit aux futures mamans, notez toutes vos questions et c'est le moment de retrouver notre palabre.
Priorité santé. Sur RFI.
Palabre féminin, elles sont trois autour du micro de Charlie Dupio, Mada et Sandrine. Elles ont toutes les deux 43 ans. Il y a aussi Médina, 47 ans. Chacune se souvient de cette préparation et c'est Mada qui entame la discussion.
Donc moi, la première fois, ça s'est très bien passé. Je partais avec l'idée justement que je ne connaissais rien. Je voulais justement qu'on m'apprenne. Je voulais qu'on m'apprenne et j'avais toujours hâte à prochain atelier en fait. Il y avait comment respirer, comment aussi préparer papa. Il y avait ça. Et donc, on nous a expliqué que c'était possible aussi les différentes façons d'accoucher. Donc, moi, l'idée, c'était, je voulais accoucher dans une baignoire.
Voilà. Oh, c'était la même chose aussi, moi aussi. Je voulais faire exactement la même. Mais j'ai vite déchanté quand on m'a dit qu'il n'y avait pas de péridurale. Je me suis dit, non, je dis, ça va aller.
Donc, c'était super. Et j'ai même préparé une playlist. Du coup,
J'adore.
Elle a tout préparé.
Qu'au final, t'as jeté, non ?
Non, j'ai accouché sur Bob Marley, en fait.
Oh là là, ouais. Ça déchire. Ça déchire.
Donc, on avait tout préparé.
Mais moi, la préparation, ça a été d'abord, avant même de penser aux ateliers, c'était déjà de lire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis d'abord documentée. J'ai regardé des vidéos d'accouchement, pas l'accouchement en lui-même, mais dans quel état d'esprit faut être, comment est-ce qu'on est. Mais moi, je vais dire jusqu'à 5 mois. Après, vous allez voir pourquoi.
Mais pour revenir à ce que tu disais, Médina, la préparation, c'est vrai que c'est en amont. J'avais acheté un agenda, moi. L'agenda où, justement, tous les mois, comment il est. Et à chaque fois, on te montrait comme une balle de ping-pong, comme machin.
Moi, c'était une application, moi. Moi, j'avais l'application qui, toutes les semaines, me disait l'évolution du fœtus, comme tu dis là. Ouais. La taille, si c'était un melon, un raisin c'est ou ça, un truc comme ça. Toi, t'avais le livre, moi, j'avais l'application.
Ouais. C'était un agenda et tu notais. Moi, j'aime bien quand tout est carré, mais la vie, c'est pas toujours ça. Et moi, je me suis dit, à 30 ans, je lance. Et effectivement... À 30 ans, j'ai
30 ans pile poil. Ouais.
Et encore plus que ça, il fallait que je me prépare aussi. Il fallait que tout soit prêt, les armoires, tout ça, les vêtements, par âge et tout. Donc j'avais tout préparé parce qu'on a envie que tout soit prêt. C'est le premier enfant. Voilà, c'est une étape. Et puis j'avais peur de faire tomber mon bébé. Oh. Ouais, j'avais peur de faire tomber mon bébé. Donc, franchement, les cours à l'accouchement où ils montrent comment tenir le bébé, comment le laver. Je dis, mais comment on le tient d'un côté là. Donc, voilà, j'avais tout préparé. Nickel. Franchement, j'ai de bons souvenirs.
Et alors, est-ce que avec ou sans préparation, vous avez eu peur de l'accouchement?
Moi, j'avais peur. Avec tout ce qu'on regardait, il a fallu désapprendre aussi. Parce qu'avec tout ce que, depuis que je suis petite, hein, je vois à la télé les femmes qui crient pendant qu'elles sont...
et qu'insultent leur mari. Lâche-moi!
Qui écrase des mains et tout.
Non, mais c'est ça. Donc, il a fallu désapprendre. Et ma mère qui me disait, le premier, j'ai mis 19h. Et moi, je pensais en fait qu'on est en train de pousser pendant 19h. Je croyais vraiment que c'était ça. Oui, je pensais que c'était ça. Mais en fait, non, c'est le travail qui est en train de se faire pendant tout ce temps-là. Et puis, donc, j'ai eu peur. Mais je me suis dit, moi, je suis du genre à me dire, de toute façon, on va le vivre. Donc, le jour où ils avaient prévu, ben moi, j'ai pris ma petite valise, je suis arrivée. J'ai dit, ça y est, on est prêts.
Tout carré,
quoi. Oh, j'adore.
Ça, c'est de la préparation. Hein.
J'étais prête. J'ai dit, c'est bon, on y va. Mais madame, vous avez des contractions? Ben non, mais...
C'est pas vrai. Oui,
mais vous m'avez dit que c'était aujourd'hui. On est là. Et donc, du coup, ils m'ont renvoyée chez moi. Et j'attendais tout le temps. J'attendais, puis jusqu'au jour où il est arrivé. Mais en tout cas, j'ai été bien préparée.
Mais pour moi, c'était un film d'horreur, l'accouchement. T'as vu les films? Vous avez vu les films, vous avez vu les livres, vous avez vu ce que disent les gens, les femmes partent en couche, sauver l'enfant. Enfin bon, il y a un moment, c'est la société fait peur sur ce sujet-là. Et puis de l'autre côté, il y a l'extrême inverse, c'est « Ah, c'était merveilleux », etc. Donc moi, j'étais vraiment plus flippée sur l'aspect physique, à savoir combien de temps je vais souffrir et machin, donnez-moi des techniques. Et au quatrième mois, ça y est, j'étais, quatre mois et demi, j'ai commencé vraiment à ralentir. Je me suis dit, on va l'accueillir. Psychologiquement, j'avais commencé à faire des convocations familiales parce que je suis née en France, j'ai grandi en France, je suis d'origine sénégalaise, mais je suis très attachée aux valeurs familiales. Donc j'ai commencé à me rendre chez mes parents pour leur dire, voilà, vous allez m'aider à choisir le prénom en plus du papa, on va travailler ensemble sur le sujet. J'ai appelé mes beaux-parents. En fait, pour moi, c'était un accueil global. Sauf que arrive ce moment de la dernière échographie. Je vais faire l'examen. L'échographe passe l'appareil sur le ventre et puis il me dit inspirez, expirez. Ça dure longtemps. Au lieu de 20 minutes, ça dure 1h15. Il me dit vous allez aux urgences. J'ai appelé votre gynécologue. Le bébé est vivant, mais il y a des anomalies que j'ai constatées. Il vaut mieux que vous soyez suivi. Donc quand j'arrive chez le gynécologue, il me dit « Madame Koné, vous allez avoir votre bébé aujourd'hui ?» Attends, t'es à 5 mois de grossesse, on te dit ça comme ça cache.
Et t'as réellement accouché à 5 mois de grossesse?
Eh oui. Alors j'explique. Attends, t'es comme ça.
Tu devais être dans un état.
Attends, mais moi j'avais préparé mon poulet. Il était prêt, je l'avais mariné, je devais normalement regarder Koh-Lanta, j'avais, tu vois, la préparation psychologique, moi c'était, je pensais pas que ça allait vraiment être un vrai rendez-vous d'accouchement, pour
et
moi c'était là.
Comment?
Et donc du coup, ça s'est fait par césarienne. Il faut savoir que j'ai accouché, mon fils pesait 1,2 kg, il était tout petit. Toi t'as parlé de musique madame, tu l'avais préparé, ben moi j'ai fait une préparation accélérée parce que j'avais pas le choix que d'être en mode survie. J'ai décidé que chaque instant, chaque moment, je le vivrais. Et quand j'ai entendu les pleurs du bébé, je me suis dit, j'ai fait le job. J'ai accouché. Il est là.
Des rires de l'émotion avec Charlie Dupio, ça confirme en tout cas qu'aucune naissance ne ressemble à une autre, hein, docteur Abdoulaye Diop.
Oui, toutes les naissances sont uniques, chaque accouchement est unique, même pour la patiente, pour plusieurs accouchements, ça rend compte que chaque naissance est unique.
On parle de la préparation, on parle de toutes ces questions que se posent les auditrices, beaucoup de questions qui restent sans réponse. Pierrette, par exemple, de RDC, elle est enceinte de 7 mois, elle suit les consultations prénatales et elle se demande encore à 7 mois quels sont les signes pour savoir « ça y est, je suis prête à accoucher ». Ce type de renseignement, c'est tout à fait le genre d'information qui est donnée lors des séances de préparation, docteur.
Oui, c'est ce genre de renseignement. Dans le cadre d'une consultation prénatale classique, les 15 ou 30 minutes que dure la consultation classique, le médecin ou la sage-femme n'a pas toujours le temps de s'épancher un peu sur ces données-là, expliquer quels sont les signes qui vont nous être en travail, la perte du bouchon muqueux, les contractions, la rupture de la poche des os, etc. Et donc, les cours de préparation à l'accouchement vont un peu aider à répondre à tout ce champ lexical de mots autour de l'accouchement, épisiotomie, déchirure, etc. Il y a tout un lexique qui tourne autour de l'accouchement.
Et un petit cours en accéléré avec Priorité Santé. On prend maintenant une auditrice en direct, direction le Cameroun.
RFI à Yaoundé. 105.5 FM.
Maria, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous êtes enceinte, vous êtes, comme on dit, dans votre dernier mois. L'accouchement, c'est prévu pour quand ?
Le 20, mais bon, on parle déjà de quelques semaines, quelques jours, parce que mon bébé est en position transversale et les médecins disent que je ne dois surtout pas entrer en travail. Donc, on va faire une dernière échographie dans une semaine. Et puis, si sa position n'a pas changé, bon, on va me faire une césarienne.
Donc, pas de travail, ça veut dire éviter les contractions pour pouvoir programmer cette césarienne tranquillement, sans urgence, et pour vous sécuriser un maximum. Et pourtant, vous avez des craintes. Lesquelles, Maria ?
D'abord, c'est vrai que j'ai été déçue quand on m'a dit que je n'aurais pas de travail. J'attendais tellement ça. C'est ma première expérience. Bon, après la césarienne, je crains. J'espère pouvoir sortir de là avec mon bébé.
Carrément, parce que là, je me tourne vers le docteur Diop, parce que ce qu'est en train de nous dire Maria, c'est qu'elle a peur, je vais dire les choses carrément, elle a peur d'y laisser sa vie. Vraiment, il faut la rassurer. Hein. Tous les jours, des milliers de femmes sur la planète accouchent par césarienne. La césarienne, ce n'est pas un acte médical anodin, mais c'est un acte, dans l'extrême majorité des cas, extrêmement sécurisé.
Exactement, Maria, il faut vraiment vous rassurer. La césarienne est l'acte chirurgical le plus répandu au monde, comme Caroline vient de le dire. Et le pourcentage de complications ou de décès lors de la césarienne est l'un des plus faibles au monde. La meilleure option pour accoucher pour elle, si la position transversale du bébé est maintenue, c'est vraiment la césarienne.
D'autant plus, docteur, quand cette césarienne est programmée et non effectuée en urgence, comme ça où on prend le corps de la maman, on le met et on y va très très vite parce que le bébé est en danger. Non, là, ça va être tranquille.
Voilà, ça va être tranquille. On va prendre toutes les dispositions. Elle va faire son bilan préopératoire. Elle va rencontrer l'anesthésiste pour valider ce bilan préopératoire. Elle va venir, elle pourra même choisir le jour où elle va accoucher, un peu à 48-72 heures près. Et donc, il n'y aura vraiment aucune précipitation, contrairement d'une césarienne en urgence, où un peu on va vite pour justement sauver la vie du bébé ou la vie de la maman. Donc, ça va se faire dans de très bonnes conditions. C'est la meilleure option pour elle. Il est impossible ou il est impensable d'accoucher par voie basse si le bébé est en position transversale. Et donc, la césarienne, ici, est obligatoire. C'est pour ça qu'on va la faire avant qu'elle n'entre en travail. Parce qu'à partir de 38 semaines, justement, la probabilité qu'elle entre en travail spontanément est très grande. Mais il faut faire ça calmement et ça va très bien se passer.
Maria, est-ce que vous êtes un petit peu rassurée ?
Oui.
Est-ce que vous avez quelqu'un en qui en parler dans l'équipe médicale ? Parce que là, on a échangé quelques secondes, quelques minutes. Mais peut-être qu'il vaut mieux en parler encore avec une sage-femme, avec quelqu'un tranquillement.
Oui, avec le médecin particulièrement. Bon, c'est vrai qu'il me rassure de temps en temps. Mais jusqu'ici, j'ai encore quelques craintes, surtout pour l'après, le postpartum. Je me demande comment je vais, s'il y aura des douleurs, comment gérer le gros ventre, est-ce que je pourrais faire un peu d'exercice, à quel moment, voilà un peu.
Je ne suis pas médecin, mais je veux dire chaque chose en son temps. Hein. Chaque chose en son temps, soyez raisonnable. Et puis, en tout cas, on vous souhaite vraiment le meilleur pour l'arrivée de ce bébé. À toutes les futures mamans qui nous ont appelées, on dit donner des nouvelles. Et pourquoi pas une petite photo quand vous verrez sa petite frimousse. Merci Maria. Une autre question qui concerne la césarienne, cette fois sur la page Facebook de Priorité Santé. Fanny du Sénégal demande si une femme qui a déjà subi une césarienne peut accoucher par voie basse pour les grossesses suivantes. Docteur Diop.
Oui, une femme qui a déjà subi une césarienne peut accoucher par voie basse, mais il y a des conditions. Notamment, il ne faut pas que la cause de la première césarienne ne soit pas en rapport avec une anomalie du bassin. S'il a eu une césarienne parce que son bassin était rétréci, Alors, les mêmes causes donneront les mêmes effets. Si c'est certain que son bassin ne va pas grandir entre-temps, sauf si la césarienne a été faite alors qu'il avait moins de 18 ans. Dans ce cas, on parlerait de bassin immature. Donc, si vous subissez une césarienne pour un problème lié à votre bassin, malheureusement, toutes les grossesses ne se solderont pas une césarienne. Maintenant, si vous avez une césarienne due à une hypertension artérielle ou une position du siège du bébé ou autre chose, et que à la grossesse suivante, il n'y a pas ça, il n'y a pas une autre pathologie qui peut contre-indiquer un accouchement par voie basse, oui, vous pouvez accoucher par voie basse, c'est possible.
Et on remercie beaucoup Maria. C'est avec son choix musical qu'on va justement passer à une autre question. Tout de suite, c'est Mamou d'Adjou dans Priorité Santé. Hey.
Ton père ne sait pas comment s'y prendre. Dans son rôle de père, il est encore niveau apprenti. Ton père n'a pas eu le bon exemple. Laisse-lui un peu de temps pour qu'il arrive à s'en sortir. Grâce à ton côté congolais, t'avanceras dans la vie en étant constamment fier. Yeah, yeah. Le même visage que ta mère. Combien d'hommes j'ai de voir envoyer au cimetière. T'as pas conscience encore de ce que je vais t'avouer. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile pour moi de pouvoir te dire qu'ici-bas y'a personne que je n'ai plus aimé. Dans cette vie tu es ma première réussite. Et tu l'as pas fait exprès, mais tu m'as rendu fier de moi. Je peux chanter pour la terre, mais rien ne vaut les berceuses du soir. Mamou, tu as fait plus en une seule année que tout ce que je pourrais faire pour toi. De devoir devenir une femme.
Ouh. À la vie, à la muerte. Ouh. Et tu seras toujours mon petit bébé. À la vie, à la muerte. Ouh. Et tu seras toujours mon petit bébé.
Ton père n'arrête jamais d'apprendre. Si tu savais tout ce qu'il a raté dans sa petite vie. Est-ce que dans le fond on se ressemble? Est-ce que toi aussi tu ne laisseras pas les gens t'affaiblir? Tu peux faire confiance à ta mère. C'est moi qui l'ai choisi, mais c'est elle qui sait tout faire. Hey, yeah. Faut jamais énerver ta mère. Y'a presque rien à dire, mais quel sale caractère. N'oublie jamais que tu peux venir pour me dire quand pour toi ça devient difficile. La douleur je connais aussi. Ne te demande jamais si tu peux réussir. Regarde-moi et dis-toi que tu es ma fille. Tu l'as pas fait exprès, mais tu m'as rendu fier de moi. Je peux chanter pour la terre, mais rien ne vaut les berceuses du soir. Mamou, tu as fait plus en une seule année que tout ce que je pourrais faire pour toi. Je prie Dieu de me donner le temps de te voir devenir une femme.
D'Adjou, choix musical de Maria dans Priorité Santé sur RFI. On répond à vos questions pour être bien préparé pour l'accouchement. Conseil, réponse de notre invité, le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien, que l'on retrouve dans les studios en Mandinkan et Full D de RFI à Dakar. Et une question Facebook, docteur Astrid Kinshasa. Cette auditrice, elle a 3 enfants. Parmi les nombreuses choses qu'elle souhaiterait savoir au sujet de la grossesse, les vergetures, comment faire, docteur Diop, pour éviter des vergetures pendant et après l'accouchement?
Les vergetures, c'est un éclatement des fibres élastiques au niveau de la peau. Donc, c'est la peau de la femme au niveau du ventre, au niveau des fesses, au niveau des hanches qui gonfle rapidement et ça entraîne un éclatement. Le traitement des vergetures est plutôt un traitement préventif. Il faut agir avant que ces fibres n'éclatent. Donc, il y a tout un tas de produits cosmétiques, des gels, des pommades, sans pouvoir citer un nom commercial, qu'il faut appliquer, le beurre de karité. Déjà en Afrique, on a le beurre de karité, c'est déjà génial. Qu'il faut mettre au niveau du ventre ou toutes les zones où il y a un risque d'apparition de vergetures, mais il faut le faire avant que les vergetures n'apparaissent. Malheureusement, quand les vergetures apparaissent déjà, il est très difficile de s'en débarrasser.
Alors, direction maintenant l'océan Indien. C'est de Madagascar qu'Andy nous a laissé ce message sur le répondeur de l'émission.
Bonjour la team Priorité Santé. Bonjour à toutes les auditrices de RFI. Concernant notre thème, j'ai peur de tomber enceinte. D'abord, le changement de morphologie. Je veux garder ma tête de demoiselle. Ensuite, les douleurs engendrées par les contractions. Récemment, j'ai assisté à l'accouchement de ma sœur et comme la contraction ne venait pas naturellement, on lui a injecté un médicament pour déclencher l'accouchement. Et elle a beaucoup souffert, j'étais là avec elle. Voilà, merci.
Docteur Abdoulaye Diop, ces craintes exprimées par Andy Alors, elle a peur de changer de corps, elle a peur des douleurs au cours de l'accouchement. Il faut dire que cette auditrice a assisté à un accouchement, ce qui peut être bien sûr extrêmement spectaculaire. D'ailleurs, question que je me posais et que je vous pose maintenant, est-ce que c'est à conseiller à une femme qui n'est pas encore mère d'assister à cet événement ?
Oui, c'est possible d'assister à l'accouchement de sa sœur, d'une cousine, d'une amie, etc. Ça dépend des liens qui vous unissent. Nous avons beaucoup de patientes qui veulent avoir un visage familier en salle d'accouchement. Ici, le mari n'est pas disponible, soit parce qu'il est absent ou parce qu'il ne veut pas ou parce qu'il ne peut pas. C'est toujours bien, en tout cas pour la femme qui accouche déjà, d'avoir un visage familier dans la salle d'accouchement, en plus du personnel de santé qui l'entoure. Maintenant, il faut bien choisir la personne. Si, comme Candy, on est un peu craintive, c'est vrai que l'accouchement est traumatisant. Assister à un accouchement chez quelqu'un qui n'a pas encore eu d'enfant, ça peut déclencher une phobie justement des accouchements et justement créer ce qui est arrivé à Andy. Il faudrait la rassurer. L'accouchement est un moment naturel. Oui, sa sœur, elle a accouché, elle a souffert, mais elle a eu un beau bébé, certainement. Ça s'est bien passé au finish. Il y a des moyens de lutter contre cette douleur. Si elle, lors de son accouchement, elle a vraiment peur de la douleur, elle pourra faire des cours de préparation à l'accouchement et discuter avec son médecin et voir dans quelle mesure elle peut peut-être bénéficier, comme par exemple d'une péridurale qui va l'aider un peu à gérer l'accouchement sans trop de douleur et dépasser un peu cette peur. Le changement de morphologie aussi du corps, c'est normal, c'est naturel. Dans la grossesse, le corps de la femme, elle change. D'ailleurs, à beaucoup d'étapes de la vie de la femme, son corps va changer, depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, ça fait partie du processus naturel de la vie. Il faudrait l'accepter et peut-être en prenant de l'âge et de la maturité, elle va certainement accepter parce que son accouchement sera une belle occasion pour elle et la seule d'ailleurs pour pouvoir avoir de beaux bébés.
Et on va maintenant retrouver une autre question, une autre auditrice. C'est Eva qui appelle de Ziguinchor. On écoute son message.
Bonjour Priorité Santé, je m'appelle Eva Sagna, j'ai 35 ans et je suis du Sénégal, plus précisément de la région de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Alors, ma sœur jumelle qui est à terme, lors de sa première grossesse, comme lors de cette récente grossesse, la maman l'envoie souvent des feuilles de bananier pour faire une infusion, pour se laver avec. Beaucoup de femmes l'utilisent quand elles sont en état. Il paraît que ça facilite l'accouchement, en fait, surtout pour celles qui doivent accoucher à voix basse. Il y a également des feuilles qu'elles font infuser pour boire et qui baissent le taux de sucre, qui régulent la tension. Ma question est la suivante. Est-ce que cette pratique ne pourrait pas créer des problèmes à la maman et à l'enfant, vu que souvent, elles boivent en fait pour certaines feuilles? Mais je vois également que ça aide beaucoup de femmes par rapport au gonflement des pieds. Ces feuilles quand même aident à ne pas vraiment trop en souffrir. Je vous remercie et bonne journée.
Docteur Abdoulaye Diop, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recettes de pratiques traditionnelles. Ça circule au sein des familles, de mère en fille, de tante en fille, pour le meilleur, pour le pire. On s'arrête sur ces fameuses feuilles de bananier dont parle Eva, infusion, bain. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler d'abord et qu'est-ce que l'on sait à ce sujet ?
Oui, on en entend parler. On le voit même, beaucoup de nos patientes le font sur recommandation de leur grand-mère ou de leur mère. Personnellement, j'ai tendance à le déconseiller. Le problème de la pharmacopée traditionnelle, c'est qu'on a déjà un problème de posologie, de dosage. Tant que ce sont des feuilles ou bien des décoctions qui sont utilisées à titre externe sur l'extérieur de la peau, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais certaines, lorsqu'elles sont utilisées et lorsqu'elles sont bues, ça peut créer d'énormes problèmes. On a l'exemple, peut-être ici, les feuilles de banane posent moins de problèmes, mais on a l'exemple de cette fameuse fleur de géricault que les patientes boivent au moment du travail pour accoucher sereinement, accoucher plus vite, et qui entraîne des catastrophes, qui entraîne des ruptures utérines, qui entraîne des hémorragies intenses et parfois même mortelles. Donc, il est tout à fait déconseillé de boire des choses pour déclencher l'accouchement ou bien pour accélérer le travail. Il faut laisser le travail se faire de manière naturelle. Les professionnels de la santé qui, lorsqu'ils veulent accélérer le travail ou le réduire, ils ont des médicaments à disposition où les posologies sont bien respectées, sont bien connues et maîtrisées, plutôt que d'utiliser un produit dont le dosage pharmaceutique est très aléatoire et qui est à l'origine de beaucoup de complications. Donc, tant que ce sont des utilisations à titre externe, en bain, de siège, etc., pour assouplir le périnée et autres, c'est tolérable et acceptable. Mais s'il s'agit de boire des choses, en tout cas, nous, personnel médical, nous le décommandons fortement.
Alors, voilà pour le bananier. D'autres questions sur la page Facebook. Ricicat du Bénin posait des questions sur des interdictions, ce que la femme enceinte doit, ne doit, soi-disant, pas faire. Elle cite trois choses. ne pas dormir sur le dos, ne pas manger de sucre, ne pas manger de bananes plantain. Et Ricicat demande, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça, docteur Diop ?
Y a trop d'interdictions chez les femmes enceintes, justement. Surtout en Afrique, on leur interdit de manger de la viande, de boire de l'eau fraîche, de croquer des glaçons alimentaires. Il y a vraiment trop d'interdictions. Et il faut que ça cesse. La femme enceinte, elle a le droit de manger ce qu'elle veut. La meilleure partie de l'alimentation de la maison doit être réservée à la femme enceinte. Il faut simplement que cette alimentation soit une alimentation équilibrée. Elle a le droit de manger du sucre, elle a le droit de boire du coca, boire de l'eau fraîche, etc. Maintenant, si lors du bilan de grossesse, en début de grossesse, on s'est rendu compte pendant le bilan qu'il y avait un problème, qu'elle avait trop de sucre dans le sang, il y avait des antécédents de diabète chez elle ou chez sa famille et autres, on va lui donner des conseils de limiter un peu les apports en sucre, d'éviter les choses trop sucrées, certains fruits, certains légumes. Si le bilan montre qu'elle n'a pas de protection contre certaines maladies telles que la toxoplasmose ou la rubéole, on va lui interdire de manger des fruits de mer, de la viande non cuite, de la viande mal cuit, de la charcuterie, du poisson cru, etc. Mais ça, ce sont des choses qui, on les interdit parce qu'on sait qu'il peut avoir des conséquences et donner des malformations chez le bébé. Mis à part ça, la femme enceinte, sauf contre-indication médicale justifiée par son médecin ou sa sage-femme, elle a le droit de manger ce qu'elle veut.
C'est QFD, comme on dit. Et on part maintenant pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Pour retrouver Alimata, Alimata, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, les éclaircissements que vous souhaitez obtenir, c'est pour vos filles, on va dire. Vous avez combien d'enfants, Alimata ?
J'en ai 5. Il y a 3 filles et 2 garçons.
3 filles et 2 garçons. Alors, vous avez une question qui porte sur la péridurale. Oui. Avant de vous donner la parole, Alimata, tout simplement, docteur Diop, en quelques mots, c'est quoi cette anesthésie péridurale ?
La péridurale, c'est une technique d'anesthésie loco-régionale qui est faite lors du travail, lorsque la personne est en travail, pour arrêter les douleurs. Elle va continuer, les contractions vont pouvoir continuer, mais les sensations de douleur vont être bloquées par cette technique d'anesthésie. Et là, le travail pourra continuer, la patiente elle peut accoucher sans douleur.
Alors Alimata, vous, votre dernier accouchement remonte à 10 ans. Racontez-nous ce qui s'est passé justement à propos de cette péridurale à cette occasion.
Merci Caroline. Il y a 10 ans de cela, sur le lit d'accouchement, mon gynéco m'avait posé l'accouchement par péridurale parce que j'avais des douleurs très atroces. Alors, la sage-femme qui l'assistait m'a déconseillé, m'a fait un clin d'œil. Elle m'a dit non, ne l'accepte pas. Donc, ma question est de savoir si l'accouchement par péridurale a des conséquences à court ou à long terme sur la santé.
Alors, l'accouchement avec une péridurale, ça veut dire qu'on a donc cette anesthésie. Il y a donc cette professionnelle de santé qui est censée être la sage-femme qui, contre l'avis du médecin, vous l'a déconseillé. Ce qui peut paraître, on va dire, pour le moins, docteur Abdoulaye Diop, assez saugrenu, hein, pour ne pas dire contre-productif.
C'est vrai que la péridurale a mauvaise presse dans notre pays, malheureusement. Il y a beaucoup de rumeurs concernant la péridurale, que ça donne des maux de dos, ça rend paralysé, comme elle vient de le dire, ou bien que quand on n'accouche pas des péridurales, l'amour qu'on peut avoir pour son enfant va diminuer. C'est totalement faux. La péridurale est un geste médical maîtrisé par des professionnels de la santé, réalisé par un médecin anesthésiste, et donc il n'y a pas de problème. C'est comme quand on se blesse, on a une plaie, une ouverture de l'arcade sourcilière, on peut réparer cette plaie-là, mais on va faire une instillation d'un peu d'anesthésie pour pouvoir recoudre sans douleur. C'est à peu près la même chose. Maintenant, tous les gestes médicaux ont un risque, le risque zéro n'existe pas. Il faudrait simplement, avant de faire la péridurale, d'abord on parle avec son médecin, faire un bilan, voir s'il n'y a pas de contre-indication à la péridurale. Mais ça c'est objectivé toujours par un bilan médical, un bilan sanguin, et objectivé par une visite auprès de l'anesthésiste qui va réaliser la péridurale. Mais la péridurale, c'est juste un confort et ça aide même à accoucher plus sereinement parce que de temps en temps, certaines indications de césarienne peuvent être évitées si une péridurale avait été faite avant. Donc la péridurale, il n'y a pas de danger.
Par rapport à ce que vient de dire le docteur Diop, moi j'ai une question qui me vient en tête, Alimata. Ça veut dire que vous avez découvert l'existence de la péridurale le jour de votre accouchement. On ne vous en avait pas parlé avant.
Oui, on m'en avait parlé avant, mais il y a des rumeurs qui disaient que à long terme, la péridurale provoquait une paralysie des membres inférieurs.
Et quand vous avez un problème de santé, vous écoutez la rumeur ou vous écoutez le médecin, Alimata?
Moi, je n'avais jamais fait de péridurale et puis je ne savais pas, c'était une nouvelle technologie.
Ouais, ouais, c'est vrai que face à la nouveauté, des fois, on se pose des questions.
Voilà, C'était tout nouveau, donc je ne voulais pas prendre de risque. Donc finalement, j'ai accouché par voie basse.
Merci en tout cas, Alimata, pour votre appel. On va retourner au Cameroun, à Yaoundé. En ligne avec nous maintenant, c'est Alexis. Alexis, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 28... Bonjour à vous, Alexis. 28 ans, une troisième grossesse en cours. Vous êtes à quel terme, Alexis ?
Je suis à 6 mois, pardon, de grossesse.
Vous êtes à 6 mois de grossesse. Oui. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis un peu anxieuse. En même temps, très impatiente d'attendre mon nouveau bébé.
Anxieuse, impatiente, qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement ?
Comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai déjà eu 2 accouchements et qui se sont passés différemment. Donc aujourd'hui, j'appréhende un peu le troisième.
Vous appréhendez cette troisième grossesse ? Est-ce que vous avez une question précise à poser à notre invité ?
Oui, oui, j'ai 4 questions.
Ah, alors, on va aller une par une. Allez-y, première question, Alexis.
Quelles sont les conséquences de la santé sur des grossesses rapprochées ?
Ça vous concerne ? Vous avez, on va dire, enchaîné les bébés ? Il y a combien de temps entre les bébés ?
Le précédent bébé aura 11 mois.
11 mois.
Et là, je suis enceinte de 6 mois.
Et vous êtes enceinte de 6 mois. Donc, première question sur les grossesses rapprochées, docteur Abdoulaye Diop.
Oui, les grossesses rapprochées sont les grossesses plus difficiles. Quand on tombe enceinte de 11 mois, ou bon, à 6 mois déjà, elle est enceinte de 6 mois alors que son bébé a 11 mois. Donc, ça veut dire qu'elle est tombée enceinte très vite. Et donc, c'est physiquement plus difficile. Elle n'a pas peut-être eu le temps de récupérer le dernier accouchement ou de la dernière grossesse. Donc, il y a beaucoup plus de risque d'avortement, de fausse couche lors du premier tiers de la grossesse. Il y a plus de risque de douleur durant la grossesse. Il y a plus de risque de nausées, vomissements et des signes sympathiques de la grossesse. Il y a plus de risque de complications en fin de grossesse, malheureusement. Donc, il faudrait un suivi médical bien particulier, assez rapproché, si on a eu une grossesse rapprochée.
Deuxième question, Alexis.
La deuxième question est comment faire pour éviter qu'on accouche un bébé avec un poids énorme ?
Pourquoi les bébés précédents étaient très gros ?
Le premier bébé est né avec 3 kilos. Mmh. Le deuxième bébé est né avec 3,5 kg. Donc j'appréhende un peu.
Ben, 3,5 kg, moi je me tourne vers le spécialiste, c'est des très bons poids pour des bébés au contraire. Un bébé de 3 kg, 3,5 kg, c'est même ce qui est recommandé à terme pour la naissance d'un bébé, non ?
Oui, le poids moyen d'un bébé à terme, selon les pays et autres, ça peut varier. Mais en moyenne, 3,5 kg, c'est le poids moyen recommandé.
Une autre question, Alexis ?
Oui, s'il vous plaît. J'aimerais savoir s'il y a des moyens pour éviter les déchirures lors de l'accouchement.
Docteur Diop.
Oui, avant de répondre à cette troisième question, pour compléter la réponse à la deuxième question, pour éviter que justement d'accoucher d'un bébé trop gros, il faudrait en fin de grossesse limiter la consommation de produits sucrés, parce que c'est des produits sucrés qui vont entraîner une croissance rapide du bébé, surtout durant les derniers tiers de la grossesse. Ensuite, pour éviter les déchirures pendant l'accouchement, il faut prendre soin de son périnée. Il est conseillé en fin de grossesse de faire ce qu'on appelle des massages du périnée, des bains de cire et des massages du périnée avec certains produits tels que le beurre de karité et autres. On fait un peu le massage au niveau du périnée et ça permet d'assouplir ce périnée et ça va limiter évidemment le risque de déchirure du périnée, que ce soit une déchirure spontanée ou bien qu'une épisiotomie que le personnel médical peut réaliser pour protéger le périnée si le besoin se fait sentir.
Alexis, quand le docteur Diop dit périnée, vous savez précisément de quoi il parle ?
Non, justement, j'aimerais
vous poser la question. Mais je m'en doutais, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui découvrent cette partie de notre anatomie extrêmement précieuse et incontournable au moment des séances de préparation à l'accouchement. Docteur Diop, vous êtes un spécialiste. Des fois, vous oubliez un petit peu d'expliquer, donc je vais vous tirer les oreilles. Le périnée, qu'est-ce que c'est ?
Oui, le périnée, c'est la partie basse du bassin. C'est un ensemble de muscles qui, comme un hamac, avec différentes profondeurs, vont retenir le tronc, le bassin en bas, avec allant de l'avant vers la symphyse pubienne jusqu'à derrière au niveau de l'anus. C'est tout un tas de muscles qui vont un peu soutenir le tronc, l'abdomen de la personne. Et chez le périnée, chez la patiente, chez la femme, c'est une zone qui est mise à contribution au moment de l'accouchement, parce que c'est justement le vagin s'ouvre au niveau du périnée. Et lors de l'accouchement, ce périnée peut se déchirer du fait d'une souplesse insuffisante ou bien du fait d'une mutilation génitale féminine antérieure ou bien d'un gros bébé.
Une dernière question, Alexis.
Alors, j'aimerais connaître la meilleure méthode contraceptive avec moins d'effets secondaires.
Après ce bébé, qu'est-ce que vous souhaitez faire justement pour espacer la naissance, hein, c'est bien ça ?
Oui, oui.
C'est une question importante qu'aborde Alexis. C'est vrai, on fait le bébé, on s'en occupe après, mais on pense aussi à soi et à l'avenir de la famille tous ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, docteur Diop ?
Oui, la meilleure méthode de contraception, c'est la méthode que vous aurez choisie vous-même. Pour faire une méthode de contraception, il faudrait, après l'accouchement ou même avant, discuter avec votre gynécologue ou votre sage-femme qui va vous présenter toutes les méthodes de contraception qui existent. Pour chacune, elle va vous dire quels sont les avantages, les inconvénients et les effets secondaires. Et vous allez choisir vous-même la méthode qui vous semble la plus sécurisée pour votre personne. Et à partir de là, vous administrez cette méthode et faire le suivi nécessaire. C'est la méthode que vous aurez choisie vous-même en connaissance de cause et qui vous rassure.
Merci beaucoup Alexis pour toutes ces questions. Et c'est Patricia qui vous pose une nouvelle question, docteur Diop. Elle est en ligne de Libreville au Gabon, on l'écoute.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde. Je suis Patricia, je vous appelle de Libreville au Gabon. Je suis maman de 4 enfants. Ils sont tous nés par voie naturelle. Et actuellement, je suis enceinte d'une grossesse gémellaire où l'accouchement est prévu par césarienne. Alors, je souhaiterais savoir les suites de couches d'un accouchement par césarienne. Quelle est la différence avec un accouchement par voie basse ? Et ensuite, je souhaiterais allaiter exclusivement mes jumeaux jusqu'à leurs 6 mois. Est-ce que c'est possible ? Si oui, comment faire pour pas être épuisé ? Voilà, merci.
Alors justement, elle disait comment pas être épuisée. C'est vrai que cette fatigue, c'est quelque chose de très important à gérer, docteur Diop. C'est ce que demande Patricia. Accouchement prévu par césarienne. Allaiter les 2 bébés au moins 6 mois, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Ben, c'est une excellente initiative. Il est conseillé d'allaiter les enfants pendant 6 mois, que ce soit des jumeaux ou une grossesse unique. C'est vraiment la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Pour des jumeaux, il faudrait peut-être avoir suffisamment de lait, parce qu'allaiter 2 enfants, ça peut être un peu plus difficile. Elle aura certainement besoin d'aide, si possible, soit un parent expérimenté ou un personnel de santé qui va l'aider un peu à gérer les 2 enfants en même temps. Le pédiatre sera mis en contribution pour l'aider à avoir les bonnes positions ou une puéricultrice pour les bonnes positions pour allaiter les bébés, soit en même temps ou alternativement. Conseil pour avoir beaucoup plus de lait pour l'allaitement, boire de l'eau, beaucoup d'eau. Dans notre culture, nous demandons aux femmes après l'accouchement de boire des bouillies et plein d'autres choses, soi-disant pour donner du lait, ce qui ne sert absolument à rien. Il va apporter beaucoup de charges caloriques à la patiente qui va se mettre à grossir et pour autant, elle ne va pas avoir plus que ça une production de lait accélérée. Les 2 moyens les plus simples pour avoir du lait après l'accouchement, c'est boire de l'eau et boire du lait. Ça va favoriser la fabrication de lait. Et allaiter, des techniques, elle peut utiliser un tire-lait si nécessaire. Le lait maternel tiré peut être conservé au frais, peut être conservé au congélateur, peut être conservé au frigo pendant un certain nombre de temps bien défini. Donc oui, je lui conseille d'opter pour un allaitement exclusif au sein pendant 6 mois.
Et je vous écoute, docteur Diop, il y a quelque chose que je n'ai pas entendu dans vos conseils. Et le papa dans tout ça ?
Oui, il faut qu'il aide. Le papa sera mis en contribution pendant que la maman va allaiter un des jumeaux. Là, le papa pourra s'occuper de l'autre. Et si avec le tire-lait, justement, elle arrive à tirer son lait et qu'il le met dans un biberon, le papa pourra aussi allaiter son deuxième bébé avec un biberon, mais contenant du lait maternel. Donc oui, j'oubliais que le papa pourra être mis en contribution. Il doit même être mis en contribution.
Moi, j'oublie pas. Hein. Dernière auditrice en ligne, on part tout de suite pour le Congo.
RFI à Brazzaville. 93.2 FM.
Suzanne, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 33 ans, Suzanne. Vous êtes une maman. Quel âge a le bébé ?
Mon petit garçon, il a 2 ans.
Il a 2 ans. Comment s'est passé l'accouchement ?
L'accouchement s'est passé très difficile parce qu'au début, j'étais sujette à une infection à chlamydia. Ensuite, j'ai subi une céloscopie. Et une année plus tard, je suis tombée enceinte, mais malheureusement, j'avais un placenta bas prévu à insérer. Du coup, au terme de mon accouchement, j'ai eu vraiment de l'hémorragie et j'ai accouché par césarienne.
Docteur Diop, excusez-moi, tout le monde n'est pas forcément familiarisé avec ce terme. En quelques secondes, placenta prévu à bas insérer, c'est quoi ?
Oui, un placenta previa, encore appelé un placenta bas inséré, c'est un placenta qui est trop proche de l'orifice du col de l'utérus. Normalement, le placenta est situé à distance, au moins à 10 cm de l'orifice interne du col de l'utérus, pour que lors de l'ouverture du col, que ça ne touche pas le placenta. Si le placenta est trop proche du col de l'utérus, on parlera de placenta previa. Previa, ça veut dire près de la porte, d'origine latine. Donc un placenta previa ou un placenta bas inséré.
Alors, vous projetez une autre grossesse, Suzanne, hein, c'est bien pour ça que vous avez des questions. Précisément, ces questions, on vous écoute.
J'aimerais savoir pourquoi j'ai eu un placenta bas previa. Et mon inquiétude, c'est de savoir est-ce que désormais ça sera comme ça, que je vais toujours avoir ce genre de placenta, ou bien ça pourra arriver que j'accouche normalement par voie basse. Et j'ai du mal à tomber enceinte depuis que mon fils est là. Ça fait 2 ans aujourd'hui, mais je n'arrive pas à tomber enceinte. Je ne sais pas pourquoi, pourtant tout est normal.
Suzanne, vous dites « j'essaye de tomber enceinte ». Ça fait combien de temps, comme on dit trivialement, que vous essayez?
Ça fait pratiquement une année.
Est-ce qu'on peut dire, docteur Diops, au bout d'un an, qu'on a un problème de fertilité ou qu'on n'arrive pas à tomber enceinte?
Oui, au bout d'un an, ou même si on a plus de 30 ans, au bout de 6 mois d'essai, de ces bébés, si on n'arrive pas à tomber enceinte, on peut présumer qu'il y a probablement un problème quelque part. Et c'est une indication de faire un bilan pour voir quel est le problème.
La question qui se pose aussi, c'est peut-être aussi la fréquence des rapports sexuels. Suzanne, vous avez une activité sexuelle soutenue avec votre compagnon ?
Oui, bien sûr.
Donc aujourd'hui, vous vous posez des questions par rapport à cette question de fertilité. Est-ce que vous avez consulté à ce sujet ou pas encore ?
Oui, j'ai déjà consulté, j'ai vu un médecin qui m'a demandé de faire des examens à chlamydia, la glaire, et puis il m'a mis sous prénatal zinc, mais ça n'a pas fonctionné.
Et les examens, il y a eu des résultats avec des choses particulières ou pas vraiment?
Ma glaire, elle est tout à fait normale, ça va. Le chlamydia, c'est négatif, mais j'ai pris le traitement, mais là, ça n'a pas fonctionné.
Ah, donc vous avez encore quelques inquiétudes à ce sujet. Et quant à la récidive du placenta previa, docteur Abdoulaye Diop, qu'est-ce que vous pouvez dire à Suzanne ?
Pour répondre à la question, le placenta previa, habituellement, il est dû, on le rencontre surtout dans des situations où on a eu à faire une fausse couche et bénéficier peut-être d'un curetage, d'un curage, en tout cas d'une manœuvre endo-utérine qui a un peu blessé la muqueuse utérine interne, si j'ose dire. Et là, cette plaie va appeler, entre guillemets, le placenta lors de son insertion pendant la grossesse, en tout cas dès le début de la grossesse. Il existe de temps en temps des situations où on peut avoir un placenta previa sans cause, mais l'infection à chlamydia qu'elle relate, les antécédents d'infection à chlamydia aussi, peuvent être à l'origine d'une insertion basse du placenta et donc donner un placenta previa. Les difficultés qu'elle a à tomber enceinte, que Suzanne a tombé enceinte, il faudrait faire un bilan de fertilité un peu plus complet que juste un examen de la glaire ou un prélèvement vaginal. C'est bien, l'examen est négatif, le chlamydia a disparu, mais il ne faut pas hésiter à faire une radiographie, une hystérosalpingographie pour vérifier si les trompes ne sont pas bouchées, parce que cette obstruction des trompes est un effet secondaire à long terme d'une infection à chlamydia. Et il ne faudrait pas oublier aussi d'explorer le conjoint, voir si le problème de fertilité ne provient pas de son mari avec une anomalie du sperme qu'on peut retrouver. Donc le bilan de fertilité doit être assez exhaustif et doit concerner aussi bien la patiente que son conjoint.
Et on vous remercie infiniment, Suzanne, pour cette question, pour votre appel. Merci beaucoup d'avoir été en ligne de Brazzaville. Et on va vous dire aussi maintenant au revoir, docteur Abdoulaye Diop. Au revoir et merci.
Merci Caroline, c'est toujours un plaisir de partager une émission avec vous.
Et à très bientôt dans Priorité Santé. On remercie bien sûr à nouveau toute l'équipe de RFI en Mandincan et Full Day. On les remercie pour leur accueil dans leur studio. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Setou Samaké, Ophélie Lassène, Tiffany Menta, Justine Mascaria et à Dakar, Adine Diagne. Lundi dans Priorité Santé, on va parler du cholestérol. Contrôler l'excès de cholestérol, essentiel pour la santé des artères. Recommandations en termes d'alimentation, d'habitude, d'activité physique. Quels traitements peuvent être efficaces? On va bien sûr répondre à vos questions en direct. On se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.